Let's fly way up to the clouds.
Au musée dauphinois de Grenoble a lieu une exposition présentée dans ses murs à la chapelle Sainte-Marie d'en haut. C'est un air d'Italie, la présence des Italiens en Isère. Celle-ci s'achèvera en septembre 2012. Afin de parler de cette très belle exposition qui va du plus lointain des âges de cette présence des Italiens sur notre territoire et jusqu'à cette Italie d'aujourd'hui, cette présence d'aujourd'hui avec ses descendants d'Italiens qui peuplent notre belle contrée grenobloise et ses environs, je suis en compagnie de monsieur Olivier Cogne et monsieur Joseph Argento qui ont tous deux contribué à monter cette exposition avec ce souci toujours de faire du passé eh bien, un pont tendu vers le présent et évidemment en vue d'une construction d'un avenir plus réfléchi, plus lucide on pourrait dire sur les présences de ces Italiens nombreux dans notre région. Messieurs, bonjour. Olivier Cogne, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Argento, bonjour.
Bonjour.
Alors on est rentré évidemment par le début de l'exposition, une scénographie a été mise en place pour révéler aussi eh bien, de manière artistique, n'est-ce pas, eh bien, cette présence des Italiens. Monsieur Argenton, vous avez, vous, contribué à cette exposition. Est-ce que vous pourriez m'en dire quelques mots, s'il vous plaît?
Tout à fait. Effectivement, le début de l'exposition est un peu un préambule où deux images, deux photographies se renvoient l'une à l'autre. La première est celle du musée dauphinois dans les années 30, où beaucoup d'Italiens ont vécu ici. Parce qu'il faut savoir qu'entre 1920 et la fin des années 60, près de 100 familles vivaient ici, dans ce musée, donc dans cet ancien couvent. Et l'autre photo est une découverte, une photo de 1926, une photo d'école. On découvre qu'effectivement, en 1926, il y avait une école inférieure, élémentaire, de petits Italiens, qui avaient reçu, grâce à l'association Dante Alighieri, l'autorisation de faire des cours, donc le dimanche. Donc cette photo est très intéressante puisqu'elle montre l'ancienneté de cette immigration dans un lieu emblématique qui est le couvent Sainte-Marie d'en haut.
Où nous sommes aujourd'hui.
Absolument.
Alors on va commencer l'exposition par des temps antédiluviens, n'est-ce pas? Puisqu'effectivement, eh bien, les Alpes, c'est une frontière naturelle qui, heureusement, est poreuse. Et depuis tout temps, on s'aperçoit que la transhumance, d'un sens ou dans l'autre, n'est-ce pas, a existé. Olivier Cogne, nous sommes à quelle époque? Aujourd'hui, là, devant ce panneau, et qu'est-ce qu'il nous raconte?
Alors, ce panneau tente de résumer les voies de communication par lesquelles ces migrants italiens sont passés sur plus de 2000 ans. Elle est presque même complexe à analyser, tant les voies de passage sont nombreuses. En fait, l'idée, c'est de rappeler qu'au-delà de l'immigration contemporaine que l'on connaît, l'immigration massive des Italiens en France et dans ce département et d'autres pays, que nous rappellerons tout à l'heure, il y a des contacts permanents entre les habitants de la péninsule et les habitants de ce territoire que nous avons voulu rappeler, c'était le propos de cette exposition, sur la présence italienne avant même la création de l'Italie en 1861, donc présence des habitants venus de la péninsule sur ce territoire, qu'il y en avait eu dès l'époque des Allobroges. En passant par l'époque de la domination romaine, pour rappeler que finalement la présence italienne est assez faible à cette époque, contrairement peut-être à une idée préconçue, qu'en passant par le Moyen-Âge, avec la présence de banquiers, marchands lombards, mais aussi de juristes d'Italie du Nord, il y a eu un développement économique de la province à cette époque, province du Dauphiné, qu'il y a eu aussi des échanges sur le plan artistique au Moyen-Âge, mais aussi à la période moderne, avant la Révolution, assez nombreux. Il y a eu néanmoins une présence importante d'artisans avec des savoir-faire très divers dans le domaine de l'orfèvrerie, la plâtrerie, que beaucoup d'entre eux, entre autres exemples, que beaucoup d'entre eux sont intervenus dans des demeures aristocratiques locales, mais aussi des églises de ce département qu'on a souhaité rappeler à travers ces quelques documents, que c'est une terre de passage où ces artistes italiens ne restent pas, mais en tout cas interviennent ponctuellement.
Donc maintenant on va passer sur une thématique très riche, n'est-ce pas? C'est un peu l'histoire de la révolution industrielle, une période plus moderne. Peut-être Joseph Argento pour nous expliquer cela. Comment peut-on parler de cette transition un petit peu entre cette période qu'on a connue avant et ce 19e siècle qui arrive avec la révolution industrielle?
Tout à fait. En fait, c'est là, au milieu du 19e siècle, que va débuter une période très importante pour l'Italie, la période de l'immigration. Une immigration qui est ici illustrée par une immigration qui va partir d'abord dans le monde entier. Et avec une carte très importante pour nous, c'est une carte qui montre les immigrations italiennes dans le monde de 1876 à 1976. C'est-à-dire sur près de 100 ans, près de 26 millions d'Italiens vont émigrer dans tous les continents. Il faut bien comprendre que c'est pour des raisons essentiellement économiques que les Italiens vont partir, pour des raisons aussi politiques, mais on le verra un peu plus tard. Et donc, on a voulu partir du monde pour arriver jusqu'au département de l'Isère. Et nous avons ici une très belle photo de ces enfants italiens qui arrivaient au début du 20e, en 1913, des enfants Alice Island, qui était le centre de rétention et de contrôle où on vérifiait si les immigrés étaient aptes à pouvoir rester dans le pays.
Due note ritornelle era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva a frore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle.
Sachant quand même que l'immigration essentiellement à la fin du 19e et début du 20e siècle est une immigration essentiellement du nord de l'Italie. L'unité italienne se crée en 1861, mais la transformation de l'Italie se fait péniblement et qui ne va pas permettre de pouvoir absorber le différentiel de ces gens on avait une densité de population très importante, donc parce que la misère elle existe. Les principales régions sont des régions du nord. Il faut savoir que la région del Veneto, c'est la région qui a donné le plus d'immigrants dans le monde, c'est-à-dire près de 4 millions de personnes qui sont parties del Veneto sont de gens de la Vénétie. Le Piémont, par exemple. Le sud va prendre le relais beaucoup plus tard, à partir des années 20-25, mais essentiellement, à la fin du 19e et début du 20e, c'est quand même une immigration essentiellement du nord. Alors, nous arrivons ici avec une carte de France en 1931, sachant que 1931, c'est le pic. Il y a 800 000 Italiens qui vont venir en France en 1931. Nous avons voulu montrer les diverses régions, essentiellement industrielles, qui vont accueillir ces Italiens, c'est-à-dire le nord de la France, le bassin parisien, bien sûr l'Isère et les Bouches-du-Rhône et le Var. Et nous arrivons ici dans une pièce d'émotion, de souvenirs, où on a voulu relater le parcours de ces migrants par des objets. Donc nous avons ici un objet très intéressant, c'est une malle de 1930 d'une famille, la famille Rota. Et nous avons ici par exemple des objets qui sont usuels mais qui se passent de famille en famille et qui ont une grande charge émotive. On se transmet par exemple des
services à café.
Services à café ou par exemple cette mandoline, très belle mandoline du début du 20e siècle de la famille Donal, agrémenté de photos. Un certain nombre de documents qui eux-mêmes symbolisent ou permettent d'identifier des parcours de migrants, des passeports, des cartes, parce qu'il faut bien comprendre que ce parcours est un parcours difficile, où il faut montrer patte blanche, on a des tampons, Modane est un lieu de transition, où les migrants doivent prouver avec des tampons qui peuvent passer, revenir, voilà.
Et puis, il faut recontextualiser également cela dans l'époque. On est dans ces années 30, une crise mondiale terrible frappe effectivement en premier lieu les États-Unis, puis enfin l'Europe dans les années 31-32. À cette même époque, comme vous le disiez, le pic des migrations arrive et là se confrontent un petit peu des populations qui voient arriver des étrangers, pas toujours les bienvenus, lorsqu'effectivement c'est compliqué de vivre déjà dans son propre pays, qu'on connaît des difficultés économiques, sociales et politiques majeures. Et donc là, on arrive à des points d'achoppement un petit peu où ça grince entre communautés et il y a quelques frictions qui s'effectuent entre communautés, n'est-ce pas ?
Effectivement, nous verrons dans le parcours de l'exposition un peu plus tard, que ces frictions, elles commencent même à la fin du 19e déjà, en 1882-1886, à la mode d'Aveillant ou à Polénas, où il y a des actes italophobes. Nous continuons ici l'exposition, où avec un panel de photos qui raconte l'histoire de ces migrants dans différents secteurs d'activité, comme le travail, le baptême, le mariage, des souvenirs de famille. C'est un lieu, un passage très, très émouvant où les personnes peuvent aussi voir un film de 1934 d'amateur et qui raconte ces 6 minutes où on voit les petits Italiens tout près du Quai Perrière et de la montée Montéchalmont. Et ici, un autre film nous avons interviewé des primo-arrivants de différentes régions qui racontent leur installation, leur parcours, leur vie, leurs difficultés d'installation. Cette salle est un lieu de mémoire, un lieu où les personnes se retrouvent dans les écoles.
Oui, alors c'est vraiment des traces de vie, hein, n'est-ce pas, la vie des familles au quotidien, des scènes de vie. Alors c'est un mur, pour le décrire quand même, qui fait 4 mètres par 4 environ, où sont affichées de nombreuses photos de famille avec des enfants, des parents, des papis-mamies, des gens qui se tiennent par la main, des gens qui font bien du vélo, qui font leur vie, quoi, tout simplement ici. On sent quand même, malgré tout, se dégage une certaine joie de vivre, malgré tout. Parce qu'il faut dire que ces Italiens arrivant à Grenoble, pour ne parler que d'ici, étaient souvent cantonnés dans des quartiers très insalubres, notamment tous les quais Saint-Laurent sur lesquels nous nous trouvons là. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité, on se chauffait avec des poêles à bois plus ou moins dangereux d'ailleurs. Bref, c'était des conditions très difficiles. Et pour autant, on ne se dégage pas une tristesse. Hein. On s'aperçoit que les gens étaient volontaires pour construire une vie meilleure. Quoi.
Absolument, vous avez raison, puisque nous avons retrouvé des thèmes communs dans ces primo-arrivants qui racontent leur histoire et racontent leurs difficultés. Il y avait cette joie de vivre. Souvent, beaucoup de primo-arrivants et des femmes nous disaient « nous chantions tout le temps ». C'était un thème commun à tous ces migrants qui venaient, c'était de chanter, ou on chantait tard le soir, on se faisait un peu réprimander. Mais effectivement, il y avait cette joie de vivre, malgré les difficultés, il y avait cette volonté de se retrouver entre soi, de renouer des histoires de famille et de chanter. C'est une particularité des migrants italiens.
Absolument, donc on va continuer, c'est une belle pièce ici, hein, vraiment très intimiste d'ailleurs, qui reflète bien justement cette envie que vous aviez d'exposer cette vie au quotidien des Italiens. Alors là, une autre envergure plutôt technique,
plus technique, des
industries, des métiers.
Nous allons connaître un peu plus ces travailleurs, ces Italiens qui venaient étaient des travailleurs, et des travailleurs de talent, puisque nous avons voulu identifier trois secteurs d'activité qui nous en semblaient importants. Le premier secteur d'activité était le bâtiment, puisque nombre d'Italiens vont créer leur propre société de ravalement, de bâtiment. Un autre secteur d'activité qui est aussi particulier, c'est les mineurs de la Matésine. Nombre d'Italiens ont été, dès 1925, dans les mines de la Mure. Et un autre secteur d'activité qui est propre aussi aux Italiens, c'est le secteur des bûcherons et charbonniers. Dans différents massifs, que ce soit l'Oisans, Belledonne ou le Vercors, on a besoin de ces personnes qui restent sur des secteurs bien particuliers pour créer des charbonnières, faire du charbon de bois, et puis couper le bois, hein, donc des bûcherons, et en particulier les bergamasques, qui ont cette spécialité d'être des bûcherons, et les gens de la Vénétie d'être des charbonniers.
Et on voit d'ailleurs que ce sont aussi des conditions de vie très difficiles, puisqu'ils vivaient sur place en montagne, avec des moins 20, moins 25, des mètres et demi de neige, et puis avec des chevaux de trait. Et puis on voit un gaillard qui est quand même très costaud là.
Absolument.
Qui traîne un chariot avec, qui n'est pas un chariot, mais un traîneau. Avec des rondins de bois. Donc, voilà. Et avec une petite maquette justement d'une charbonnière.
Pour
voir comment on faisait un petit peu le charbon de bois à l'époque. La visite.
Nous avons parlé de l'aspect économique, donc absolument, de l'application économique, mais aussi de l'application sociale de la vie de la cité.
Alors là, on arrive sur une partie plus politique,
oui,
aussi.
Une partie politique qui était importante. Oui. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le fait que ces migrants ont été confrontés à des difficultés lorsqu'ils sont arrivés ici. Difficultés tout simplement parce que la population locale ne voulait pas d'eux. Et en fait, très rapidement, dès les premiers temps de cette arrivée massive des Italiens dans notre département, on s'aperçoit que cela a suscité des réactions hostiles à Polienas. Dès 1862, il y a une manifestation d'hostilité contre des ouvriers piémontais qui sont engagés sur un chantier et contraints de partir. Et le phénomène se répète en 1886 à la Motte d'Aveillans, où là encore, Nous avons beaucoup d'ouvriers piémontais. L'immigration à l'époque est essentiellement piémontaise dans ce département, qui sont victimes d'exactions à leur encontre et vont être contraints de partir. À côté de cela, nous avons souhaité rappeler aussi qu'il y avait une italophilie, une partie de la population locale qui était tout à fait à même d'accepter cette présence et qui ne la voyait pas d'un mauvais œil, et qu'il y a des personnalités politiques telles Gustave Rivet, qui était député de l'Isère à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui faisait partie de ceux-là, qui a été président de la Ligue d'amitié franco-italienne et qui sera de ceux qui vont tenter un rapprochement politique entre la France et l'Italie au début de la Première Guerre mondiale. Vous savez que l'Italie, pendant un temps, hésite à rentrer dans le conflit aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, et finalement qu'elle le fera en 1915. Et que nous avons aussi souhaité rappeler, et qu'il y a eu aussi un exil politique dans ce département, un exil de quelques dizaines de personnes, d'opposants communistes, socialistes, républicains, au régime de Mussolini, qui vont être contraints de partir pour tenter de s'opposer, depuis la France, à ce régime. Que certains d'entre eux, plus tard, s'engageront dans la résistance locale. Au sortir de la guerre, plusieurs personnalités d'origine italienne dont nous avons souhaité rappeler l'engagement politique, social, sportif.
Cette intégration, elle est pleinement active avec tous les aspects que ça peut recouvrir, sportif, culturel, économique bien évidemment, et puis de la vie sociale tout simplement, et syndicale, politique, et tout. C'est un rappel important à signaler.
Mais nous ne terminons pas là-dessus notre propos pour proposer une réflexion aux visiteurs autour des migrations actuelles. Et interrogé par cette image, qui je pense est un peu troublante, qui associe d'une part d'autres migrants clandestins à Lampedusa, qui est l'une des portes de l'Europe, porte italienne, migrants venus d'Afrique, qui sont eux aussi en attente de pouvoir gagner le continent européen, ceux-là. Et l'on se demande si finalement on ne peut pas rapprocher quand même les deux situations. On s'est permis aussi de le faire parce que des migrants italiens de la première génération ont associé leur histoire à celle des migrants d'aujourd'hui qui, venus d'Afrique, ont les plus grandes difficultés pour pouvoir arriver sur le continent européen. On ne porte pas de jugement, on laisse son libre arbitre aux visiteurs confronté à ces deux moments, l'un actuel, l'autre historique, pour s'interroger quand même si l'on ne doit pas réagir quand on connaît les conditions d'existence de ces migrants clandestins qui, évidemment, ne partent pas de gaieté de cœur de leur pays d'Afrique ou d'autres régions du globe pour venir sur le continent européen chercher du travail. La raison est toujours la même, c'est une raison économique, parfois politique, mais la raison principale est une raison économique pour chercher du travail.
Et enfin, un grand panneau de libre expression, n'est-ce pas, que vous avez voulu mettre à disposition des visiteurs, Joseph Argento.
Oui, effectivement, on pose la question, la question est celle-ci, des expositions sur des populations d'origine étrangère ont-elles, selon vous, leur place dans un musée de patrimoine régional? Et nous avons la chance de retrouver le matin un nombre de post-it qui répondent plutôt favorablement à cette question. Donc c'est intéressant puisque chacun exprime son parcours, comme je disais tout à l'heure, son histoire. Et c'est une histoire qui est riche de diversité. La place des migrants aujourd'hui, elle pose la question... quand on voit que ce thème de l'immigration sera un sujet d'actualité, sera un sujet politique, il est important de voir cette exposition pour rappeler certaines évidences et pour rappeler que tout le monde a sa place.
Très bien, merci à vous, merci à toutes les équipes qui ont contribué à réaliser cette très belle exposition. De dire que effectivement, c'est par encore une fois l'apprentissage de l'histoire qu'on arrive à mieux comprendre finalement le présent et pour essayer de construire un avenir cohérent, fort eh bien de ce savoir, afin de ne pas reproduire au moins le moins possible les erreurs du passé, en tout cas tirer des enseignements de cette histoire qui, à travers les époques, à travers les peuples, finalement se recroise. La misère touche l'homme depuis toujours. Touche touchera l'homme toujours, et toujours l'homme aura besoin finalement de chercher un ailleurs, quel qu'il soit, pour se sentir mieux pour lui et sa famille. Alors maintenant, à nous de créer les conditions d'accueil, de réception, d'humanité pour que tout ça se passe pour le mieux. Merci à vous. J'invite tous les auditeurs à venir au musée dauphinois voir cette très belle exposition, Un air d'Italie, la présence des Italiens en Isère. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci à vous.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby.